Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'oraison est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sent aimé. C'est Sainte Thérèse qui disait cela. Cette forme de prière, principalement enseignée par les Carmes, demande un apprentissage pour être correctement pratiquée. Et cet apprentissage a été l'objet d'une série d'émissions proposées pendant le carême. Pâques est maintenant arrivé, il est temps de faire le point aujourd'hui sur ce qui a changé en chacun de nous. Comment l'oraison a-t-elle permis de faire grandir notre amitié avec Jésus ? Faire ce point post-carême sur cette école d'oraison, nous sommes avec le frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus. Bonjour frère.
Bonjour Isabelle.
Vous étiez le premier et vous êtes le dernier.
Oui.
pour cette école d'oraison, un apprentissage qui s'est déroulé au couvent des Carmes, donc tous les lundis soirs, et puis à Radio Présence le mardi. Peut-être pour commencer, on pourrait reprendre rapidement ce qu'est l'oraison. Vous pourriez nous refaire un petit résumé.
Oui, alors je reprends tout simplement la belle définition de notre mère Sainte Thérèse que vous avez lue. Pour commencer, parce que tout est dedans,
c'est dans
le chapitre 8e de sa vie. L'oraison n'est à mon avis qu'un commerce intime, c'est-à-dire un échange d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Donc l'oraison, c'est une histoire d'amitié, d'amour, avec une personne, Dieu, même avec trois personnes, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important de le réaliser. Et puis on peut reprendre aussi ce qu'en disait la petite Thérèse, c'est le tout au début du chapitre sur la prière dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la partie sur la prière. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. C'est dans son manuscrit C. Et donc là aussi, on voit que pour la petite Thérèse, comme pour sa mère Thérèse d'Avila, la prière, l'oraison, c'est une question d'amour, d'amitié, quoi.
Oui, c'est ça. Avec cette présence donc, de la Trinité et donc de l'Esprit-Saint, notamment, que vous avez invité à invoquer
pendant
la prière d'oraison.
Oui, tout à fait.
Au début de cette prière. Alors, c'est vrai que on imagine qu'un certain nombre de participants vous ont fait part de leurs difficultés à faire oraison et à tenir dans la durée. Pourquoi est-ce si difficile ?
C'est difficile parce que... la réponse un peu rapide qui me vient, c'est parce qu'il y a un combat, quoi. Il y a un combat entre... on va voir pourquoi c'est difficile aujourd'hui, mais... pour commencer, on pourrait dire que c'est difficile parce qu'il y a un enjeu, il me semble, très très fort, un enjeu spirituel, et avec des ennemis qui veulent nous en détourner. Voilà, donc...
ça prouve bien que c'est essentiel.
Oui, ça prouve bien que c'est essentiel, je pense, ouais. Et donc c'est difficile parce que ça demande un effort, parce que c'est pas naturel, j'allais dire, c'est surnaturel. On parlait de l'Esprit Saint, c'est lui le principal artisan de l'oraison. Et donc on n'est pas habitué non plus aux manières de faire de Dieu. On n'est pas habitué à ce que l'Esprit Saint veut pour nous. Et donc on est trop habitué en fait à faire par nous-mêmes, à choisir selon notre propre volonté, etc. Et donc quand il faut rentrer dans la manière de faire d'un autre, dans la volonté d'un autre qui est Dieu, c'est difficile. Et donc c'est pour ça que l'oraison est difficile, quoi.
Oui, il faut lâcher ses certitudes.
Voilà, enfin il faut garder. On a des certitudes, etc. Mais ce qu'il faut surtout lâcher, je pense, c'est alors peut-être il y a des certitudes qu'il faut lâcher, mais ce qu'il faut lâcher, c'est ce qu'il faudrait percer, c'est plutôt nos carapaces, quoi. Et puis apprendre à réaliser que notre vulnérabilité, c'est un atout pour l'oraison, pour permettre à Dieu d'y pénétrer plus profondément et puis de faire son œuvre, quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile, c'est parce qu'on ne veut pas être vulnérable, on veut être fort, on veut savoir, on veut, etc.
On veut maîtriser.
Et on veut maîtriser. Et donc je pense que c'est une des principales difficultés, quoi, dans la vie de prière.
Alors vous dites, frère Jean-Mariam, que la prière est un combat.
Oui, oui, oui.
Et notamment Jésus, dans son agonie au jardin des Oliviers, il a parlé de ce combat.
Oui, alors c'est pas qu'il en a parlé, il l'a vécu.
Ouais. Il l'a vécu plutôt.
Voilà, et c'est on peut reprendre le passage où Saint Luc en parle dans le chapitre 22e de l'Évangile selon Saint Luc. Je le lis parce que ça montre très bien ce passage que dans la prière, il y a un combat. Et puis on voit aussi dans ce passage toutes les à la fois les joies et puis les difficultés qu'on peut rencontrer nous-mêmes dans l'oraison. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Alors, c'est vrai qu'on est pendant le temps pascal et ça fait peut-être un drôle d'effet de lire ce passage-là pendant le temps pascal, de revenir un peu en arrière. Mais, et puis, il faut, je trouve que ce passage montre bien que la prière est un combat. Il y a un drame là qui se joue. Peut-être que nos prières ne sont pas toujours aussi autant dramatiques. Hein. Mais là, on voit bien quand même que on voit Jésus prier. Voilà. Il a une position pour prier. Il se met à genoux. Il s'adresse à quelqu'un, son père. Hein. Il y a un ange qui est là pour le réconforter. Enfin, vous voyez, on a tout ce qui se passe dans toute prière chrétienne.
Hein. Est-ce que ça veut dire, si vous parlez de l'ange, frère Jean-Madian, que, par exemple, notre ange gardien, il est présent
pendant notre
prière ?
Bien sûr, bien sûr. Et pas seulement notre ange gardien. Enfin, tous les anges sont là. Hein. Donc, vous voyez, c'est important de rappeler cette vie surnaturelle, cette vie invisible hein, qui nous enveloppe quand on se met en prière. Et il y a vraiment non seulement Dieu qui est là, mais il est là avec toute sa cour. Hein. Comme disait notre Mère Sainte Thérèse, quand Jésus se déplace, il est avec toute sa cour. Hein. Donc avec la Reine, la Vierge Marie, avec ses sujets, les saints, avec tous les anges, enfin, etc. Donc il y a toute une vie invisible qui est là et qui nous enveloppe dans la prière. Et puis en même temps, on voit les apôtres qui sont endormis. Bon, peut-être ça peut nous arriver dans l'oraison. Donc je trouvais que ce passage illustrait bien le fait que là on voit Jésus qui est dans le combat qui demande même à son père d'éloigner de lui cette coupe, mais toujours que ta volonté soit faite, hein, comme il nous l'a appris à le dire dans le Notre Père, et un combat d'un être, de quelqu'un, c'est plutôt le péché quoi, qui veut détourner Jésus de sa mission, hein. Et puis Jésus qui persévère dans la prière, hein, qui se met en prière, qui se tourne vers son Père, qui ne quitte pas son Père, quoi, qui reste vraiment avec lui. Hein, Donc, la prière est un combat. Et le catéchisme, d'ailleurs, nous le rappelle très, très bien. J'invite les auditeurs à relire et à méditer hein, toute la partie du catéchisme de l'Église catholique sur le combat de la prière. Ce sont les numéros 2725 et suivants. C'est magnifique, il faut méditer ça, parce que ça nous montre bien... il faut être lucide. La prière, quand on se met en prière, y a un combat qui se met en œuvre. C'est pas de la guimauve, la prière, quoi, en fait.
Voilà. Un combat pour la fidélité, pour être
fidèle
chaque jour.
Pour être fidèle, pour persévérer, pour durer. Ouais. Pour rester avec Dieu, avec Jésus, hein, alors qu'on a. On a tant de sollicitations pour nous, mille pensées, et puis pour nous en éloigner. Hein. Oui, tout à fait.
Puisque vous parlez de combat, ça signifie qu'il y a des ennemis à combattre.
Oui, oui.
Qui sont-ils, hein ?
Alors, il y a des ennemis à combattre. Alors, pour bien percevoir les ennemis à combattre dans la prière, peut-être je commence par faire un détour par l'Ancien Testament.
Ah, oui.
Parce que c'est pour mieux réaliser que quelquefois on reste avec une vision vétérotestamentaire des ennemis quoi. Et dans l'Ancien Testament, l'ennemi c'était, alors on le voit par exemple avec les Égyptiens par rapport aux Hébreux au moment de la sortie d'Égypte, etc. Les ennemis, ce sont des personnes humaines qui sont hostiles envers moi ou envers qui je suis hostile. Et ces ennemis, il faut les combattre, il faut même les supprimer, surtout s'ils s'opposent à Dieu. Hein, c'est un petit peu là, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament.
Il y a toujours une dimension de guerre, quand même.
Oui,
hein.
Tout à fait. Mais comme dans l'oraison, il y a une dimension de guerre. Alors là, elle est. Elle ne se situe pas au même niveau que dans l'oraison, hein, bien entendu, mais il y a une dimension de guerre, et on le voit très bien avec David et Goliath. Hein, il y a une disproportion aussi. Hein. Et puis, on voit très très bien aussi que quand David prend la résolution d'aller combattre Goliath, eh bien, le roi Saül veut le revêtir de son armure, hein, pour aller combattre Goliath. Voilà, et en fait, ça ne marche pas, quoi. David, il ne peut pas porter tout cet attirail. Il faut qu'il y aille comme il est, et armé uniquement de la force de Dieu. Et souvent, c'est un peu ça, quoi. Enfin, là, on peut le prendre du point de vue spirituel. C'est-à-dire que souvent, on veut, justement, je parlais des carapaces tout à l'heure, enfin, on veut se blinder, se mettre des choses, voilà.
C'est ça, cette armure.
Ouais, cette armure-là qui n'est pas adaptée pour nous, pour le combat de la prière, parce que nos armes principales, c'est la force de Dieu, quoi. Alors voilà, donc là, l'ennemi dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un à combattre, à quelqu'un qui est hostile, envers qui je suis hostile, et qu'il faut supprimer. Quoi. Et,
c'est radical. Hein.
Alors, ouais, il y a quelque chose d'un peu radical. Bon, on voit aussi la pédagogie de Dieu, hein, qui veut nous... qui veut nous emmener dans son royaume, et qui nous emmène par un chemin qui est le sien, et voilà. Et en fait, justement, ce chemin par lequel il veut nous emmener, eh bien, c'est pour nous faire comprendre peu à peu, et ça on le voit dans le Nouveau Testament avec Jésus, que il y a deux types d'ennemis avec dans le Nouveau Testament avec Jésus, hein. C'est des ennemis à aimer et des ennemis à combattre, voilà.
Ah oui, et donc en fait, là, c'est là, ce que rajoute
voilà,
ce que, Jésus.
La nouveauté, hein, qu'apporte, voilà,
c'est
Jésus. Hein.
C'est pas seulement le combat.
Oui, mais il y a des... Ouais, voilà, il y a, exactement. Et dans ces... en fait, les ennemis de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui sont hostiles, les personnes humaines qui sont hostiles à moi, envers qui je suis hostile, que je voudrais supprimer parce qu'elles sont opposées à Dieu, eh bien, Jésus m'apprend que ces ennemis-là, je dois les aimer.
Voilà. Pas simple.
Et ça, il le dit très clairement, hein, c'est dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5e de saint Matthieu. Alors, attendez que je le prenne sous les yeux. Hop, voilà. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Hein. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ben voilà, priez pour ceux qui vous persécutent, c'est-à-dire tous ces ennemis qu'on voyait dans l'Ancien Testament, qui pouvaient nous persécuter, voilà, contre qui j'étais hostile ou qui était hostile envers moi, etc. Eh bien, ces ennemis-là, Jésus nous demande de les aimer.
Hein. Mais très concrètement, dans la prière, c'est qui cet ennemi qu'il faut aimer ?
Alors, justement, ces ennemis-là, ce sont pas des ennemis de la prière. Vous voyez ? Toutes ces personnes humaines qui me semblent hostiles, qui sont contre moi, qui sont opposés à... qui peuvent être opposés au Christ et à son Église, eh bien, en fait, ce n'est pas des ennemis dans la prière. Voilà. C'est ce que nous apprend Jésus. Et toutes ces personnes-là, dans la prière, je dois les aimer, c'est-à-dire je dois les emmener vers Jésus, les donner à Jésus, les présenter à Jésus.
Hein. Ouais, donc, il y a une dimension d'intercession, là.
Exactement, ouais. Et non plus désirer leur fin, désirer... le pire, désirer qu'ils aillent en enfer ou je sais pas trop quoi, ça c'est pas du tout une attitude chrétienne, hein. Voilà, donc on voit bien par exemple avec la petite Thérèse l'exemple de Pranzini, c'est très très fort ça, hein. Alors que toute la France entière à cette époque-là voulait la peau de Pranzini, il avait demandé grâce au président de la République, alors les foules s'étaient rassemblées devant sa prison pour le lyncher, etc.
C'était un meurtrier,
c'est un meurtrier, ouais, un meurtrier qui avait fait trois meurtres horribles. Et toute la France voulait sa peau, sauf la petite Thérèse qui, à 14 ans, au fin fond de Lisieux, priait pour le salut de son âme, quoi. Donc, elle avait compris, vous voyez, que cet ennemi, on peut dire, c'était un ennemi de la société, il a fait des crimes, etc. En fait...
Elle voyait son âme, en fait.
Elle voyait son âme.
L'intérêt de prier pour le salut de son âme.
Elle voulait pas, elle voulait pas le supprimer, ou elle voulait le sauver, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Hein. Les personnes humaines, c'est ce que nous apprend Jésus, personne n'est ennemi de la prière, enfin, comment dire, personne ne peut m'empêcher de prier, quoi, ça. Aucune personne humaine ne peut m'empêcher de prier, hein, et donc ne peut m'empêcher d'avoir cette relation avec Dieu, hein. Et donc je peux pas vouloir enfin la suppression d'aucune de ces personnes, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais voilà. Si ce n'est pas une personne humaine, on voit très bien, et vous l'avez dit au début de notre émission, que la prière est un combat et qu'il y a bien une personne qui s'oppose à ce que l'homme ait un lien avec Dieu, un lien privilégié.
Alors,
il y a
plusieurs, il y a plus qu'une personne, en fait. Et ça,
C'est le diable, quoi.
Alors oui, oui, oui. Alors c'est justement ça. Ça fait partie de ces ennemis, hein, qui peuvent s'opposer enfin, qui peuvent nous détourner de la prière, quoi. Hein, oui. Et alors ça, ces ennemis, voilà. Alors parce que ça, il y a les ennemis à aimer dans le Nouveau Testament, et Jésus nous montre aussi les ennemis à combattre, voilà. Et les ennemis à combattre, c'est jamais des personnes humaines. Voilà, c'est ça qu'il faut bien retenir, vous voyez. Oui. Hein. Ça peut être une personne spirituelle, enfin toute personne est spirituelle, mais uniquement spirituelle, comme le diable que vous évoquiez. Hein. Mais c'est jamais, les ennemis de la prière sont jamais des personnes humaines. Alors il y a des personnes humaines qui peuvent nous être contre Dieu, ne pas vouloir compris, etc. Mais il faut pas les combattre, ces personnes. Mmh. Voilà.
Oui, il faut plutôt prier pour elles.
Il faut prier pour elles et vouloir qu'elles soient sauvées et qu'elles aillent un jour au paradis avec nous, quoi. Enfin, vous voyez. Donc Jésus nous montre les trois ennemis à combattre dans une parabole. Je ne sais pas si je peux la lire maintenant, non? Ou
Alors oui, et puis après on fera une petite pause musicale.
Ouais, très bien.
Ouais, très bien.
Parce que c'est la parabole du semeur. Où Jésus est très clair là, et puis c'est une des rares paraboles où il donne une explication, hein, il y en a quelques-unes comme ça où Jésus donne la parabole et puis après il l'explique. Alors on la trouve dans le chapitre 8 de Saint Luc, mais je vais la lire dans Saint Matthieu au chapitre 13. Voilà. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et puis quelques versets plus loin, Jésus en donne l'explication. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
Alors je vous propose que justement on profite de la pause musicale pour laisser cette parabole du semeur nous imprégner. Et donc nous écoutons Nada Tétourbé d'après un poème écrit par Sainte Thérèse d'Avila.
Oh.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
La prière d'oraison, pourquoi est-ce si difficile d'y être fidèle? Comment persévérer sur ce chemin entamé pendant le carême? C'est la dernière étape de l'école d'oraison que nous vous proposons aujourd'hui avec le frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, carme au couvent de Toulouse. Vous nous disiez, frère Jean-Mariam, qu'il y avait des ennemis à aimer et d'autres à combattre. Oui. Et vous avez lu cette parabole du semeur. Oui. Expliquez-nous ce qu'elle nous enseigne.
Ah oui. Alors, juste avant d'expliquer ce qu'elle enseigne, c'est pour rappeler que justement... la prière est un combat, mais en fait, pour remporter une victoire dans un combat, il y a deux choses nécessaires qu'il faut absolument. C'est premièrement, avoir conscience qu'il y a un combat. Voilà, si je n'ai pas conscience que la prière, c'est un combat, mes ennemis pourront faire ce qu'ils veulent pour m'en détourner. Moi, je ne ferai rien du tout puisque je n'ai pas conscience qu'il y a un combat. Et la deuxième chose pour remporter la victoire, tout ça avec la grâce de Dieu et l'aide de Jésus, bien entendu, c'est de connaître les ennemis. Et justement, ce sur quoi je voulais insister là, c'était de bien dire qu'avec Jésus, il y a une nouveauté qui s'opère. Il y a des ennemis à aimer qui sont les personnes humaines. Toutes les personnes humaines ne sont pas nos ennemis, mais parmi elles, il peut y avoir des ennemis. Mais ces ennemis, il faut les aimer, il ne faut pas les combattre. Il y a des ennemis à combattre. Qui veulent nous détourner de la prière. Et ce sont les trois ennemis que Jésus vient de nous donner dans la petite parabole,
du semeur.
Voilà. Oui. Et alors ces trois ennemis, pour reprendre les mots de Jésus, c'est le mauvais, c'est l'homme d'un moment qui n'a pas de racine en lui, et puis le troisième ennemi, les soucis du monde et la séduction de la richesse. Autrement dit, c'est notre père Saint Jean de la Croix, il a un petit enseignement là-dessus où il parle du diable, de la chair et du monde. Voilà. Alors, il faut bien comprendre ce que sont ces trois ennemis. Je vais les reprendre un par un.
Oui. Alors, si on commence par le diable.
On va commencer par le diable. On va prendre l'ordre que nous donne Jésus. Voilà. Il faut bien avoir conscience que le diable, c'est une personne réelle. Alors, vous voyez, ce n'est pas une personne humaine, mais c'est une personne, quoi, qui existe vraiment. Il y a deux travers dans lesquels il ne faut pas tomber avec le diable. C'est de le voir partout. Et le deuxième travers, c'est de croire qu'il n'existe pas. Mmh. Voilà. Mais il existe vraiment une pure créature. Mais c'est une créature, voilà, c'est ça. Un pur esprit, une créature. Et donc, qui est en dessous du Créateur. Et ça, c'est très important de bien l'avoir en tête et dans le cœur. Parce que s'il est en dessous du Créateur, il est soumis au Créateur.
Oui.
Mystérieusement, parce qu'on se dit, mais pourquoi alors il se déchaîne, pourquoi il fait tout ce mal, etc.
Alors qu'il a désobéi.
Il a désobéi, mais il est obligé d'obéir à Dieu. Ça, c'est sa grande humiliation. Parce qu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu, voyez, puisqu'il est une créature, et que c'est Dieu qui lui donne d'exister à chaque instant. Alors ça, c'est mystérieux. Pourquoi Dieu lui donne d'exister à chaque instant? Pourquoi il ne le supprime pas? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas Dieu, quoi. Mais en tout cas, c'est pour essayer de comprendre ce grand mystère, il faut toujours regarder la croix, en fait, et avec la résurrection, le débouché de la croix qui est la résurrection. Pourquoi est-ce que Dieu a permis la croix, ce déchaînement de mal, d'atrocité sur un innocent, de souffrance sur un innocent? Eh bien, alors c'est pas vraiment une réponse, mais on peut voir que de cela a débouché la résurrection. Voilà. Et donc si Dieu permet un mal, c'est toujours pour un bien plus grand. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir en tête par rapport à l'existence du diable. Pourquoi Dieu permet-il que le diable existe?
Vous dites qu'il faut le connaître, mais c'est pas si facile que ça de le connaître.
Alors il faut le connaître. Il faut connaître
ses ennemis pour les combattre.
Exactement. Alors il faut déjà savoir qu'il existe. Et puis il faut savoir qu'il est malin. Notre père Saint Jean de la Croix, il dit cela à propos de ses trois ennemis. Tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires. Le diable est le plus difficile à découvrir. Voilà, le diable est le plus difficile à découvrir parce qu'il est malin, en fait.
Et donc il se cache dans des détails.
Il peut se cacher, il peut nous donner des slogans trompeurs, il peut se déguiser en ange de lumière et nous faire croire que telle ou telle chose est bonne, en fait, enfin voilà, etc. Donc il faut savoir que c'est un maître du camouflage, quoi. Voilà. Mais le diable, il a des points faibles, et son grand point faible, c'est justement, c'est avec ça qu'il faut le combattre, c'est que il n'a ni la foi, l'espérance et la charité. Enfin, il a une...
Ces trois vertus théologales.
Voilà, trois vertus théologales. Il a une certaine forme de foi, parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il existe, etc.
Oui, on le lit dans l'Évangile, ça.
Voilà, exactement. Je sais que tu es le Saint, le Saint de Dieu, etc. Et puis Jésus qui lui dit de se taire.
Tais-toi.
Bon. Mais il n'a pas une foi agissante par la charité. Et donc, en fait, la grande arme pour lutter contre le mauvais... c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est trois vertus théologales. Hein. Et ça, c'est très, très fort. Si, peut-être nos auditeurs peuvent en faire l'expérience, parce qu'on n'a pas forcément... On n'est pas des saints, des grands saints, comme le Saint Curé d'Ars ou la Madre, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, il y a peut-être qui nous écoutent. Non, généralement, ceux-là, ils ne nous écoutent pas. Ils sont en prière dans leur chapelle. Mais peut-être, il y en a qui nous écoutent. Mais souvent, c'est les grands saints qui sont attaqués directement par le malin, par des grandes attaques extérieures, etc., parce que comme ils ont complètement
terrassé
les deux autres ennemis. Le diable qui s'occupe d'eux. Hein. Ouais. Mais nous, on n'a pas ces grandes attaques, mais on peut avoir des petites tentations qui nous viennent du malin. Et ça, on peut en faire l'expérience. C'est-à-dire, si on a une tentation qui nous tombe dessus, sans crier gare, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire...
Vous auriez un exemple ?
Disons la gourmandise, parce que ça parle à tout le monde. Voilà, je suis en train de faire un travail, etc., et puis il faut que je me déplace pour aller dans un autre endroit, et je passe pas loin de la cuisine, et là devant la cuisine, grosse tentation qui me tombe dessus, d'aller m'empiffrer de je sais pas trop quoi dans le frigidaire, vous voyez.
Ok. Hein.
Alors que, c'est pas, vous voyez, je suis en train de faire un travail, je me suis déplacé dans le cadre de ce travail, etc. C'est pas le but. Hein. Ça me tombe dessus comme ça. Eh bien, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Et on peut faire celui que la Sainte Vierge a appris aux enfants de Fatima. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » En plus, on rajoute un acte d'adoration, c'est magnifique. Et si la tentation disparaît, bah, c'est que c'était le malin.
Ah.
Vous voyez ? Et ça, c'est clair, quoi. Et ça, on peut en faire l'expérience. Hein. Alors, si elle est encore là, c'est que ce n'est pas le malin, c'est que c'est le vieil homme en nous.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est le deuxième ennemi, vous voyez. Le deuxième ennemi que nomme Jésus, hein, c'est l'homme d'un moment, il dit dans la parabole, celui qui n'a pas de racines en lui, autrement dit, celui qui n'a pas ses racines en Dieu, hein, mais qui a ses racines dans ses mauvaises habitudes. Alors, c'est cet ennemi que saint Paul, dans ses épîtres, nomme la chair. Hein. Alors, il faut bien comprendre ce terme de chair, parce que ça ne veut pas dire, c'est pas la chair dans le sens le corps humain. C'est-à-dire, voyez, il ne faudrait pas que les auditeurs se disent « Ah oui, le deuxième ennemi à combattre, c'est mon corps. Quoi. Il faut vraiment que je combatte mon corps, que je n'aime pas mon corps, que je mate mon corps, etc. » Non, surtout pas. Quoi. Voilà, le deuxième ennemi à combattre, notre corps, c'est un don de Dieu qu'il faut apprendre à aimer, à respecter, etc. Temple de l'Esprit Saint, qui va un jour ressusciter, donc c'est magnifique, hein, qui a une dignité très très grande à cause de ça. Voilà. Et quand on dit la chair, c'est nous-mêmes. C'est le vieil homme qui vit en nous depuis le commencement, quoi. Enfin, depuis le péché originel. Quoi,
avec ses mauvaises habitudes.
Avec ses mauvaises habitudes que la théologie appelle la concupiscence. Hein. C'est-à-dire cette inclination au mal. Voyez. Saint Paul, il dit l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. C'est ça le vieil homme. Voyez, c'est ça la chair. Hein. Et en fait, c'est important, on en parle en deuxième parce qu'on suit l'ordre que nous donne Jésus dans la parabole du semeur. Mais en fait, en réalité, dans la vie spirituelle, c'est lui le premier ennemi à combattre.
Alors, quelles sont les armes pour le combattre ?
Alors, j'y arrive, mais juste avant de vous donner les armes, je vais vous rappeler ce que dit Saint Jean de la Croix de lui. Mm-hmm. Hein, il dit que la chair, c'est l'ennemi le plus opiniâtre des trois. Et ses assauts durent tant que le vieil homme subsiste. Voilà. Le plus opiniâtre des trois, ça veut dire, vous voyez, c'est important de réaliser que c'est lui l'ennemi le plus opiniâtre et que c'est le premier ennemi à combattre qui veut nous détourner en fait de notre vie de prière. Hein. Si on n'en a pas conscience, on va commencer par s'attaquer au diable parce que c'est plus, je sais pas quoi, ça nous paraît plus important, etc. Mais en fait, il y en a un qui va s'attaquer à nous à l'intérieur de nous-mêmes, hein, qui est nous-mêmes, quoi, le vieil homme en nous.
Il faut en prendre conscience.
Il faut en prendre conscience pour prendre les armes pour pouvoir le battre. Et alors, les grandes armes pour battre ce vieil homme en nous, donc, vous voyez, pour remporter la victoire contre le démon, c'est la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Mmh. Eh bien, pour combattre le vieil homme en nous, ce sont tout simplement les vertus humaines. Autrement dit, les vertus cardinales, hein, il y en a quatre, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Hein. Donc, on peut retrouver ça dans le Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1804 et suivant. Et ça nous rappelle que pour lutter contre le vice, pour lutter contre le péché, pour lutter contre les mauvaises habitudes, il faut développer toujours la vertu opposée, la bonne habitude opposée. Quoi, hein. Vous voyez, pour lutter contre l'orgueil, il faut développer l'humilité. Contre la paresse, il faut développer la persévérance. Contre la gourmandise, il faut développer la tempérance. Je vous donne les sept péchés capitaux comme ça. Contre la luxure, il faut développer la chasteté. Contre l'avarice, la sobriété. Contre la jalousie, la charité fraternelle. Contre la colère, la douceur. Voilà. Et en fait, c'est important d'avoir conscience de ça parce que, avec la grâce de Dieu, c'est notre travail. Vous voyez ?
C'est notre participation.
Notre collaboration à l'œuvre de Dieu en nous. Le travail de développer les vertus, quoi. Les vertus, elles sont à la fois infuses, mais en même temps acquises. Vous voyez, infuses, c'est-à-dire que Dieu nous peut nous donner la grâce de l'humilité, mais en même temps, elles sont acquises.
Il faut la travailler, l'entretenir.
Il faut la travailler, voilà, exactement. Mmh. Hein. Ah, oui, et donc ça, c'est très, très important. Oui. Voilà.
Y a un troisième ennemi après le diable et nous-mêmes, la chair, c'est le monde.
Le monde, ouais, le monde, l'esprit du monde. Alors là aussi, il faut bien entendre. Hein, c'est ce que dit Jésus quand il parle du souci du monde, des séductions de la richesse. Hein. Et puis chez Saint-Luc, il y a une autre traduction, enfin il y a une autre expression, enfin je sais, je l'ai plus en tête, mais les auditeurs pourront aller voir dans le chapitre 8 de Saint-Luc. Et alors le monde, c'est pas le monde créé et aimé par Dieu, c'est pas ce monde-là. Quand on dit que le monde est un ennemi à combattre, hein.
C'est pas la nature, par exemple.
C'est pas la nature. Mmh. Ouais, voilà. Et c'est on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Hein. Donc, ce n'est pas ce monde que Dieu aime et qu'il faut combattre, bien entendu. Hein. Il y a deux acceptions, si vous voulez, du mot « monde ». Et c'est dans le deuxième sens qu'il faut l'entendre, c'est-à-dire ce monde dont Satan est le prince. Hein. Et ça, c'est Jésus qui le dit très, très bien, juste avant le lavement des pieds, dans l'Évangile selon saint Jean. « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Voilà. Donc, ça va être le moment de la crucifixion, enfin de l'agonie, la crucifixion et puis la résurrection. Hein. Donc, « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et puis, juste après le lavement des pieds, il enseigne à ses apôtres, il vient le prince du monde, certes sur moi il n'a aucune prise. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, hein, parce que si le prince du monde n'a aucune prise sur Jésus, eh bien l'esprit du monde n'en a aucune non plus. Hein. Et donc ça nous donne une piste déjà, mais je vais y venir, pour les armes avec lesquelles il faut combattre
ça donne de l'espérance,
le monde.
En tout cas.
Oui, ça donne de l'espérance en tout cas. Ouais. Et puis, Jésus aussi, avant son agonie, toujours dans l'évangile de saint Jean, dit hein, « Le prince de ce monde est jugé. Voilà. » Autrement dit, il est condamné. Oui. Voilà, il a perdu. Hein. C'est saint Augustin qui dit, qui donne cette image très forte que depuis la crucifixion de Jésus, le diable, le prince de ce monde, c'est comme un chien méchant accroché à une chaîne.
Voilà, donc, donc il ne peut pas nuire.
Il ne peut pas nuire, sauf avec...
Il aboie.
Il aboie, mais il ne faut pas s'en approcher, c'est tout. Il faut rester avec Jésus, hein, ouais, et dans les bras de Marie. Voilà. Et donc, vous voyez, le monde qui va s'opposer à ce qu'on prie, à ce qu'on ait un lien très fort avec Dieu, etc., eh bien, c'est ce monde dont le prince, dont Satan est le prince. Hein, voilà. Alors, c'est l'esprit du monde, c'est l'ennemi le moins difficile à vaincre. Hein. C'est ce que dit saint Jean de la Croix quand il dit « Le monde est l'ennemi le plus faible. » Voilà. Il est faible, mais en même temps, il s'infiltre en nous.
Il faut quand même le combattre.
Voilà, il faut le combattre parce qu'il s'infiltre en nous comme un virus dans un ordinateur. Quoi. Mm. Donc, il faut être prudent. Parce qu'on, notre pape François, paix à son âme, hein, que, nous a beaucoup... ouvert à cette réalité, à ce troisième ennemi, en fustigeant sans cesse la mondanité.
Oui, c'est hein, ça. L'esprit du monde.
Voilà, l'esprit du monde, la mondanité spirituelle. Hein. Et donc, c'est ça qui peut étouffer la vie de Dieu en nous. Hein. Vous voyez, alors la grande arme pour lutter contre l'esprit du monde, eh bien, c'est l'esprit de l'évangile. Hein. C'est pas compliqué.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire la parole de Dieu, s'en imprégner.
Voilà, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, mais vraiment, c'est, enfin, c'est pas des mots, quoi. Il faut vraiment le vivre et le faire pour réaliser son importance. C'est-à-dire lire la parole de Dieu et en particulier l'Évangile. Hein. Normalement, un chrétien, il ne devrait pas passer une journée sans avoir lu au moins un verset de l'Évangile. Vous voyez ? Oui. On a ce don immense chaque jour à la messe de recevoir quelques versets de l'Évangile. Hein. si on peut pas aller à la messe tous les jours, on peut peut-être lire chaque jour ces versets de l'évangile que nous donne l'Église. On les écoute à la radio présence, enfin chaque matin. Enfin, on a ce cadeau. Voilà, si on ne lit pas l'évangile, on pourra pas s'imprégner de cet esprit de l'évangile et combattre l'esprit du monde. Hein. Mmh. Et la grande charte pour combattre l'esprit du monde avec l'esprit de l'évangile, c'est vraiment le sermon sur la montagne, hein, le chapitre 5, 6 et 7 de saint Matthieu. À commencer par les béatitudes.
Ah, voilà. Oui.
Ah ouais, l'esprit des béatitudes, c'est l'inverse de l'esprit du monde. Oui. Regardez, ça commence. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus nous dit bienheureux les pauvres. Le monde, il nous dit bienheureux les riches et ceux qui ont plein d'argent. Enfin, vous voyez.
Oui.
Hein, donc, et on pourrait reprendre chacune des béatitudes comme ça. Mm. Et donc, s'imprégner, comme vous disiez, de l'évangile, le méditer, le garder dans son cœur comme la Vierge Marie, peut nous aider à combattre contre l'esprit du monde.
Cet esprit du monde. Ouais, voilà. Finalement, si je vous suis bien, frère Jean-Mariam, vous encouragez chacun à persévérer.
Ah oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Tout à fait. C'est important de persévérer. Et juste avant de... je vais y venir sur cette persévérance, mais je vous dis encore un petit passage de notre Père Saint-Jean de la Croix, dont j'ai compris quelque chose ce matin d'ailleurs.
Ah.
Or, pour surmonter... Vous voyez, sur ces trois ennemis, il dit comme ça, Saint-Jean de la Croix. Or, pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il faut les terrasser tous trois. Donc, il faut chercher à combattre les trois, quoi. Il ne faut pas juste un et puis les autres, on s'en fiche. Non, non. L'un d'entre eux étant affaibli, les deux autres manquent de force. Voilà, donc ça nous donne un peu d'espérance.
Une forme de solidarité entre eux.
Exactement. Ouais, ouais. Et quand tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. C'est ça que j'ai un peu mieux compris ce matin, parce que je me disais quand même, quand il dit tous les trois sont surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Moi, j'avais tendance à dire, en fait, la guerre, elle s'arrêtera à notre mort, pas avant, quoi.
Ouais.
Et en fait, non.
Ouais, c'est
parce que c'est-à-dire que si on est fixé en Dieu. Si on est complètement en Dieu,
il n'a pas de prise sur l'âme.
Il n'a pas de prise sur l'âme. Ces trois ennemis n'ont plus de prise sur l'âme. Et donc, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Hein. Mais pour en arriver là, justement, il faut persévérer. C'est important de persévérer, hein, de continuer autant qu'on puisse à prier, à garder...
Garder le cap.
Garder notre cœur dans le cœur de Dieu, hein, par la prière. Et ça, c'est la persévérance. Hein. Jésus, il dit dans l'Évangile, cette petite phrase très, très forte, hein, « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Voilà. Donc, la persévérance, c'est vraiment une grâce à demander, hein, pour garder la fidélité jusqu'au bout, pour tenir bon dans les épreuves et dans le combat de la prière. Quoi.
Et est-ce qu'il y a des petits outils pour aider justement, oui, pour soutenir cette persévérance?
Bien sûr. Alors, les auditeurs les connaissent bien. Je les rappelle là parce que c'est important. Voilà, il faut mettre en place, bien entendu, des moyens, quoi, pour continuer à persévérer dans la prière. Le premier, en fait, c'est au moins 15 minutes d'oraison chaque jour. Quoi.
C'est la prière elle-même.
La prière elle-même, vous voyez. Pour persévérer dans la prière, faut prier, quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'autre, il y a pas de secret, quoi. Enfin, Et puis ensuite, il y a toute la vie sacramentelle, hein, alors qui va avec, hein, mais la messe dominicale chaque dimanche, c'est pas une option. Hein. Et si je peux pas aller à la messe le dimanche, je peux pas la remplacer par la semaine. Non, je vais à la messe le dimanche, sauf si je suis malade, bien entendu, ou si je vais visiter un malade. Mais autrement, non, la messe dominicale, j'y vais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte.
Hein. Oui, c'est non négociable.
Bien sûr. Mmh. Et puis le sacrement de la réconciliation, hein, une fois par mois, pour justement parce que je m'aperçois que finalement le vieil homme, il est encore tenace en moi, et je tombe encore, etc. Eh bien, pour pouvoir m'en détourner, il va falloir que je me confesse régulièrement de ces chutes, hein, etc.
Le Seigneur donne la grâce.
Exactement, ouais, pour me détourner de ça. Et puis, ce qui est important aussi, peut-être, c'est d'être dans un groupe d'église.
Hein. Oui, de ne pas rester seul.
Voilà. Alors, il y a un groupe de prière, ou enfin d'autres groupes, mais c'est important de ne pas être seul, parce que c'est un combat qui se mène, le combat de la prière, dans la communion des saints.
Voilà, et puis évidemment d'autres moyens, faire une retraite chaque année par exemple, et puis avoir des bonnes lectures. Et puis vous avez la gentillesse de m'apporter ce petit ouvrage qui s'appelle Vive Flamme, qui est fait par la revue carmélitaine,
par l'édition du Carmel,
Et qui donne un bon support aussi pour entretenir sa foi et sa prière. Il est temps de nous arrêter, frère Jean-Mariam, merci beaucoup. Et donc je rappelle que vous êtes carme au couvent de Toulouse, et avec vos frères vous nous avez accompagnés pendant le temps du carême et jusqu'à Pâques, jusqu'après Pâques, pour suivre cette école d'oraison. Merci à tous.
Oui, avec joie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.